Chapitre 11e. Le train filait vers Paris. Par la portière du wagon, Henri jetait un dernier regard sur la campagne. Le long panache blanc de la locomotive rampait sur la plaine, s'envolait en enroulant de petits villages, aux toits écrasés, puis se déchirait sur les hautes branches des arbres bordant la ligne d'horizon. Le train filait. Il approchait de la capitale. Les jardins devenaient plus petits, les arbres plus rares, les maisons grotesques. Bientôt, ce fut la banlieue, avec ses grandes cheminées d'usines qui jetaient leur fumée noire sur le ciel, puis les fortifications. Il arrivait. « Paris, Paris !» criaient les employés. Les masses vaguement dessinées des édifices, les becs de gaz réfléchissant leur lumière sur les trottoirs, le bruit des voitures roulant sur le pavé et les mille cris de Paris étourdirent un moment notre Henri. Il se sentit pris d'une grande tristesse au moment d'entrer dans ce chaos. Cependant, à mesure qu'il s'enfonçait dans la ville, la vision devenait moins confuse. En passant sur un pont, il s'arrêta, flatté par la perspective de la Seine, où les réverbères faisaient plonger des fusées de lumière. De lourds bateaux descendaient, portant à leur poupe des feux rouges et verts. À sa droite, Notre-Dame semblait un gros sphinx accroupi sur le bord du fleuve. Au loin, les dômes, les tourelles et les clochers se profilaient sur le ciel bleu sombre semé d'étoiles. Ce tableau le frappa plus vivement que celui du cœur de Paris, auquel la profusion de lumière ôtait tout relief. Henri, pendant cette soirée, regretta amèrement le clocher de Chavernay. L'aspect froid de sa chambre d'hôtel n'était point fait pour dissiper ses noires impressions. Il passa une mauvaise nuit, comme tout provincial ne sachant pas encore s'endormir avec le roulement des voitures et les vibrations des vitres. Dès le lendemain matin, il se mit en devoir de présenter sa lettre de recommandation au peintre Claude Janet, ami de Maître Job. L'adresse indiquait une des rues du vieux quartier latin derrière l'observatoire. Henri s'y rendit. En traversant le jardin du Luxembourg, il eut une sensation de plaisir à la vue des grands arbres, bien vivants ceux-là, non pas comme ceux des boulevards avec leurs allures rachitiques. La fontaine Médicis mirait son groupe de marbre dans son eau limpide. Des oiseaux jaseurs s'envolaient sur les gazons humides. De tous côtés, le profil blanc d'une statue apparaissait sur le fond vert des massifs. Des jeunes filles lisaient en se promenant sous les marronniers. Un charmeur jetait du pain aux moineaux. Henri passa en se promenant de revenir souvent par essai en cet endroit-là. Il était très ému en arrivant à la porte du peintre. Il sonna. Une servante parut, lui fit traverser un petit jardin, puis, lui indiquant un escalier rustique, « Montez !» dit-elle. « Monsieur est dans son atelier. » Sur la porte, une tête de chien fantastique était peinte. Au-dessus, on lisait « Parlez à Cerbère ». Au-dessous, « Entrez sans frapper ». Henri entra. C'était une grande salle au plafond élevé. Au fond, une sorte de sanctuaire, une plateforme bordée d'un balustre de chêne sculpté et soutenue par des colonnes torses dont les intervalles étaient fermés par des portières du Turkestan au dessin bizarre. Le temple des modèles. À l'autre extrémité, une grande verrière aux losanges plombés comme les vitres d'une église s'étendait du plafond jusqu'au fronton de la porte et versait un flot de lumière tombant obliquement sur le tapis d'Orient déroulé à terre. Autour de la salle, des bahuts antiques en chêne sculptée, incrustés de porphyre et d'onyx. Sur les panneaux, les combats de l'Arioste s'étalaient en rondes bosses. Des tapis de Bagdad, des soies brochées de brousse descendaient des frises et déroulaient sur les murs leurs tons éclatants. Sur les crédences venues d'un château gothique se dressaient des faïences de Nevers, de Rouen, de Delft et du Japon, des verreries de Venise, des grès flamands, des vidres comme, des hanapes, des buires s'arrondissaient sous la lumière qui accrochait des paillettes d'or à leurs flancs. Partout sur les murs des souvenirs de voyages en Italie, en Espagne, en Turquie, au Maroc. Des esquisses enlevées prestement en plein air sous le soleil. Des manolas prises à Grenade, des gardes croqués aux portes des palais mauresques. Des types de gitanos, de lazzaroni, de santons, de derviches, saisis au vol et fixés au hasard de la palette. De ci, de là, des costumes, des armes. Une grande épée à deux mains était appuyée sur le bras d'une chaise Moyen-Âge, trouvé jadis dans un vieux monastère. Les pourpoints, les hautes chausses, les souliers à poulaines, les coiffures à la Hénin, les toques, les chaperons, les corsages de châtelaine, les manteaux et les dalmatiques gisaient pêle-mêle avec les violes d'amour des trouvères et les dagues des bravis. Sur des carreaux de velours de Gênes, rehaussés de dentelles de Flandre, un grand lévrier s'étirait. Près de lui, un chat noir s'était pelotonné et ronronné au fond d'un casque portant au cimier une chimère héraldique. Autour, au milieu, au hasard, des chevalets, encore des chevalets, chevalets à crémaillère, chevalets à rouet, chevalets droits, chevalets à col de cygne. Tous supportaient des toiles représentant des personnages, les uns de forme vague, les autres poussés jusqu'à la perfection. Le peintre Claude Janet, assis sur une escabelle, brossait une hérodiade. Il se leva au bruit de la porte s'ouvrant. « Entrez, mon ami, entrez !» dit-il à Henri, qui semblait perdu dans une admiration muette. Le jeune homme entra. L'artiste lut la lettre et son visage exprima un vif plaisir. « Ah, le brave Job » s'écria-t-il. « Il ne m'a pas oublié. Enfin, je vais donc pouvoir lui rendre service. Jeune homme, asseyez-vous. Vous êtes l'enfant de la maison. » Henri s'assit sur un divan. Claude prit place à côté de lui. « Je n'ai pas, mon ami, lui dit-il, la prétention de vous posséder entièrement. Et je ne vous demanderai pas de me faire votre biographie complète. Cela viendra tout doucement, en causant. Je suis sûr que nous nous entendrons. « Croyez bien, monsieur, répondit Henri, que s'il ne faut pour cela que ma bonne volonté, elle ne me fera pas défaut. Je n'en doute pas un instant. Avant tout, ayez confiance en moi. Imaginez-vous que j'ai pris la place de votre bon maître, et soyez dès maintenant avec moi tel que vous étiez avec lui. Je n'ai pas l'air méchant. Certainement non. Eh bien, mettez-vous dans la tête que nous sommes deux amis, nous connaissons depuis 10 ans et causons en camarades. Je suppose que notre primitif vous a inspiré l'amour des anciens et de l'école classique. Pourtant, il me dit que vous vous rapprochez plus, par tempérament, de l'école romantique. Oui, j'aurais voulu vivre au temps de Delacroix et de Diaz. À quoi cela vous avancerait-il aujourd'hui, sinon à vous voir des cheveux blancs? On ne vient jamais trop tard. Ce qui est beau est éternel et triomphe toujours. Travaillez sans vous préoccuper du goût du public. Si l'œuvre est forte, elle s'imposera tôt ou tard. Il ne faut pas désespérer de son temps. Voyez Corot, il a attendu le succès pendant 30 ans. Vous aimez Corot? J'ai toujours admiré ses paysages doux et un peu voilés. Et en dehors de l'école française, j'aime les Flamands, les petits maîtres hollandais. Ah oui, le chaudron de cuivre reluisant, le paysan qui marche besace au dos vers un hameau fumant et le cabaret à l'enseigne grinçante. Tous les myopes aiment cela, et vous l'êtes un peu. Dans les Flamands, c'est le procédé qui vous plaît. Dans les romantiques, c'est la couleur. Votre maître m'écrit que vous aimez l'Orient. Tel que je vous vois, vous chercherez à peindre des sujets orientaux très soignés et de petites dimensions. Vous serez un Jérôme aux petits pieds. D'ailleurs, tous les genres ont leur valeur. Ce qu'il faut avant tout, c'est se tenir également éloigné des fadeurs de l'école et des folies des indépendants. Entre M. Cabanel et M. Manet, les deux pôles opposés, il se trouve une large route où doivent passer les peintres d'avenir. Préau a dit « Si dans les arts l'extraordinaire devient monotone, rien n'est si bête que le naturel absolu. » L'entretien continua sur ce ton. Peu à peu, Henri se familiarisa avec le peintre. De son côté, Claude Janet pénétra facilement l'esprit du jeune homme. Ils déjeunèrent ensemble, dans une petite salle attenant à l'atelier, tapissée de soie japonaise et simplement ornée de 2 énormes plats en faïence grand feu. Claude installa Henri dans sa maison et lui donna un petit coin pour travailler. Dans l'après-midi, un modèle vint demander au peintre s'il n'avait pas besoin de ses services. C'était une jeune fille. Elle posait l'ensemble. Claude voulut la voir. Elle se retira un moment au fond de l'atelier, derrière les portières de tapis d'Orient, et revint complètement dévêtue, nue comme une épée. Elle monta sur une sellette placée au milieu de la pièce, et là, droite et blanche, sous la lumière tombant du vitrail, elle demeura sans nul embarras, dans une attitude de statue grecque. Claude lui fit lever les bras, plier la hanche, présenter son profil, et se déclara satisfait. Tout cela très sérieusement, très naturellement. Tout est chaste dans l'art. Le feu sacré de l'idéal purifie tout. Aucune pensée étrangère à son œuvre ne vient hanter l'artiste devant son modèle. Il cherche uniquement à rendre la beauté telle que le Créateur le plaça sur la terre. Aussi le modèle reste-t-il chaste dans sa nudité, après s'être dérobé pour se dévoiler, sentant que certains arrangements de costumes sont moins pudiques qu'une nudité complète. Cela est si vrai que le jeune homme, ému d'abord par l'apparition du modèle, en demeura moins troublé qu'il ne l'avait été devant Lady Clarkson, simplement décolleté. En peu d'instants, il refoula sa première émotion et s'habitua à considérer la chair du modèle comme un beau marbre aux lignes pures. À partir de ce jour, il connut la vérité.